www.libradio.org, la radio comme en famille. Deviens meilleur, rejoins la gang, il y siège des trésors.
Nous sommes le mardi 7 avril. Bonjour Christian Wilhelm.
Bonjour.
Bonjour. Alors, vous êtes directeur de la FECPA. La FECPA, c'est un acronyme qui désigne la Fédération genevoise pour la prévention alcool et cannabis, dont on va immédiatement donner le site internet pour que toutes les personnes qui nous écoutent puissent évidemment aller ensuite regarder tout ça d'un peu plus près. Alors, le site internet, c'est www.carrefouraddiction.ch. Carrefour Addiction au pluriel. Carrefour Addiction, c'est également, vous allez certainement me démentir, mais c'est une plateforme qui contient la FECPA concernant la prévention alcool, également le CIPRET, prévention tabac. Concernant le CIPRET, le directeur du CIPRET, M. Jean-Paul Humer, qui est par ailleurs médecin également, et donc qui s'occupe plus, eux, du tabagisme.
Rien ne va plus, qui travaille sur les jeux de hasard et d'argent, les jeux vidéo aussi, et qui est aussi bien sollicité. C'est une bonne ressource aussi pendant ces temps de confinement.
D'accord, donc rien ne va plus, eux, ça concerne l'addiction au jeu, c'est cela?
Voilà.
Très l'addiction, bien.
Mais nous, on s'occupe plus de la prévention que des addictions, en fait. On essaie d'être un peu en avance.
Ouais, de faire le travail en amont. Nous parlons à l'occasion du lancement d'une campagne, et c'est une campagne qui est un appel au magasin pour abandonner la promotion de l'alcool et du tabac, c'est ça?
Oui, absolument.
Alors, je pense qu'on peut tout de suite commencer. Caroline, est-ce que tu voudrais commencer avec une question?
Très, très bien. Déjà, bravo pour votre engagement dans ces temps un peu troubles. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'accompagnement que vous proposez en ces temps un peu difficiles? Est-ce que vous maintenez des rendez-vous de face à face, ou est-ce que vous devez vous limiter à des contacts téléphoniques? Comment est-ce que ça se passe?
Alors, Carrefour Addiction, c'est d'abord le centre de compétences pour la prévention. Donc, notre travail, c'est pas tellement d'accompagner des dizaines de personnes qui souffrent d'addiction. Par contre, une de nos principales fonctions, c'est de proposer une alternative aux personnes qui se voient pas franchir le seuil d'un lieu de soins. Mm-hmm. Pour un peu faire le point sur leur consommation. Et c'est très intéressant, parce que le moment des consommations problématiques, eh bien, c'est le moment où la personne peut encore faire quelque chose, elle n'est pas encore addict, elle a encore le contrôle. Alors actuellement, on fait par visioconférence ou téléphone, on a souvent des parents qui nous téléphonent. Il y a des situations un peu cocasses, si vous voulez, des parents qui découvrent que leur jeune, il fume peut-être plus de joints que prévu, ou qu'une consommation est beaucoup plus problématique que ce qu'ils avaient imaginé. Enfin bref, quoi, dans l'intimité du confinement, l'intimité de la consommation n'est plus garantie. Alors ça change un peu la donne. Du coup, il faut prendre le temps de réfléchir, voir un peu comment ils vont réagir pour que ce soit le plus adéquat possible.
Et puis est-ce que le problème est le plus accentué en temps de confinement, ou bien il devient plus apparent?
Ça dépend des situations et des personnes. Si vous voulez, si vous êtes confiné tout seul, ou toute seule, ma foi, il ne va pas devenir plus apparent. Mais par contre, il faut quand même voir qu'il y a 20% de la population qui a des consommations dites plutôt élevées, comme ça, plutôt à risque, comme ça. Et dans ceci, il y a une bonne partie qui ont des consommations festives, un peu généreuse, et puis une autre partie qui ont des consommations chroniques. Et c'est pour ça que les plus âgés, et notamment nos aînés, sont les plus gros consommateurs d'alcool, en fait. Donc, dans ce cas de confinement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ceux qui ont des consommations festives vont avoir une tendance à instaurer plutôt des rituels de consommation régulière. Donc, c'est pas un problème en soi si on fait ça sur 2-3 mois. Mais la question, c'est que ils vont s'installer des rituels où la consommation va devenir quotidienne, alors qu'en général, les consommations festives, c'est surtout le week-end, c'est très délimité. Il y a des risques qui concernent plus la conduite de véhicule ou des choses comme ça que la santé à long terme. Voilà, donc, oui, on voit qu'on a des témoignages des magasins qui vendent plus d'alcool. C'est quand même un très, très bon indicateur. Et puis, on se rend compte que certaines personnes dans cette situation très bizarre, en profitent pour diminuer leur consommation, et d'autres, ils n'arrivent pas à contrôler, ils se laissent un peu aller dedans. Et voilà, ça va donc, c'est une situation qui va plus précariser les personnes qui ont déjà le plus de risques d'avoir un problème à gérer leur consommation. La consommation en elle-même n'étant pas un problème, c'est ça.
Et est-ce que les adolescents sont particulièrement touchés par une consommation abusive?
Non, je ne suis pas dans le confinement parce que la consommation d'adolescents, ça ne va pas se faire devant papa, maman, à la maison, enfin, pas le plus souvent, hein, je veux dire, au niveau de la santé publique, du plus grand nombre. Il y a toujours des exceptions dans tous les sens. Mais non, ça va concerner plutôt des gens comme vous et moi. Qui s'achètent leur alcool pour le boire à la maison, etc. Quoi. Oui.
C'est ce que vous proposez, des stratégies pour faire face?
Oui, on a publié sur notre page Facebook, Carrefour Addiction, on a travaillé avec un illustrateur sous le thème « La quarantaine va me saouler ». En fait, ce n'est pas une quarantaine, ça, c'est un confinement. Oui, on propose, c'est pas très compliqué en fait. On consomme d'après les stimulations sociales. Alors là, il n'y en a pas beaucoup. Il y a peut-être les apéros Facebook, les apéros Skype, des trucs comme ça. Mais on consomme surtout d'après le prix et d'après la proximité du produit. Donc, un conseil, oui, au lieu de mettre vos packs de bière dans le frigo, mettez-les à la cave. Vous verrez, vous en consommez beaucoup moins. C'est très simple et très efficace. Il y a aussi le fait, si vous êtes quelqu'un, vous avez conscience que vous avez une tendance à passablement boire, c'est pas mal de ne pas se désaltérer à l'alcool, c'est-à-dire d'avoir un verre d'eau toujours pendant qu'on boit de l'alcool ou en alternance. Et puis surtout, pour les apéros, il y a toute la richesse de tous les cocktails sans alcool à expérimenter, qui sont très très bons sans alcool aussi, quoi. Après, chacun trouve un peu ses stratégies. Une des stratégies, c'est de vérifier, en fait, mais finalement, est-ce que c'est un plaisir que de boire ce verre-là? Ça, c'est cool. Si on ne buvait que les verres qui nous font plaisir, si on ne fumait que les cigarettes qui nous faisaient vraiment plaisir, on n'en fumerait pas beaucoup. Après, il y a d'autres stratégies. Je ne sais pas, vous en avez peut-être vous-même. Nous sommes tous un peu consommateurs. Donc.
Ouais. Moi, je suis un petit lent.
Je pense que la course à pied, la marche, ce qui doit vider un peu l'esprit.
Oui, alors tout à fait. Et ça, c'est ce qu'on propose surtout aux personnes qui ont déjà des consommations ou qui relèvent de l'habitude, où ils ont de la peine à s'empêcher de boire. Alors là, on n'est plus dans la consommation totalement festive. Et oui, alors on leur propose de réfléchir, mais c'est quoi ma qualité de vie quand je bois? C'est quoi ma qualité de vie quand je bois le moins? Finalement, mon plaisir, c'est quoi? Et c'est vrai qu'on a publié toute une liste de plaisirs alternatifs. En fait, dans notre parution, on a fait un chouette post Facebook sur gérer les émotions. Parce qu'en fait, nos consommations, si vous voulez, historiquement, la consommation d'alcool, mais de tabac aussi, elle est liée aux émotions, toujours. Et on accompagne nos émotions de consommation d'alcool. Et le cerveau, lui, il fait toujours le lien. Il dit « Oh, émotion, où est l'alcool ?» Et en fait, il y a d'une part apprendre, explorer toute la gestion des consommations sans l'alcool. Et puis aussi, il y a tout le fait, si j'ai besoin de soulagement, si j'ai besoin de détendre, parce qu'on est dans une période propice aux tensions, tous les scénarios de détente qui font plaisir et tous les petits plaisirs qu'on peut faire, aller se balader en forêt, etc. Oui, c'est toujours bien. Mais il y a peut-être aussi... danser dans sa cuisine, hurler dans sa chambre à coucher. Il y a plein. Moi, je pense que dans cette période extraordinaire, on peut se permettre d'être enfin extraordinaire.
Et si je ne me trompe pas, vous menez une campagne pour lutter contre l'apparition de publicités relatives à l'alcool ou au tabac dans l'espace public. C'est juste?
Alors, non, c'est pas pour les publicités sur l'espace public, mais c'est bien pour éviter les actions dans les magasins. Parce que c'est vrai, vous avez raison, la publicité sur l'espace public, c'est très incitatif. Mais plus vous êtes proche du moment où vous achetez, plus la publicité est efficace. C'est pour ça que si vous allez dans un kiosque ou un tabac, vous avez en gros en 30 et 40 moments où on vous rappelle qu'il y a des cigarettes, quoi. tellement il y a des illustrations, des tas d'images dans tous les coins. Et en fait, ce qu'on demande simplement, c'est que, enfin, nous proposons au commerce d'eux-mêmes déclarer qu'ils ne vont pas faire de promotion de l'alcool et du tabac pendant cette période de semi-confinement. Pas de promotion, c'est pas de baisse de prix, pas de mise en avant du produit. Et on leur propose, pour combler le manque à gagner possible, de mettre en avant d'autres produits comme des cocktails sans alcool, tout un tas de produits qui sont très intéressants.
Et vous avez une réponse plutôt positive de cette campagne ?
Alors, quand nous y avons réfléchi, il nous semblait qu'on demandait quelque chose d'assez simple, qui était une bonne manière aussi pour les enseignes de, à la limite, de faire du marketing, hein, de dire, vous voyez, on est des gens, on pense à vous, on fait bien les choses, et si on vend de l'alcool, c'est juste parce que c'est un produit culturel et qu'on aime bien boire un bon verre au bon moment. Et en fait, nous avons écrit à toutes les grandes enseignes de la grande distribution, et en fait, force est de constater qu'ils ne sont pas très preneurs. Et c'est pour ça que pourtant, on ne demande pas quelque chose de très compliqué en ces temps. D'autant plus que ces magasins qui restent ouverts alors que les autres sont fermés se font plutôt des bons chiffres d'affaires, semblerait-il. Non, alors ça ne semble pas si naturel que ça pour eux. Alors, peut-être pour des raisons qui m'échappent, hein, je ne suis pas un spécialiste de leur business. C'est pour ça que nous nous rabattons plutôt sur les commerçants. Et finalement, ça serait assez sympathique de pouvoir faire ça plutôt avec les commerçants de quartier, etc., pour mettre un peu la pression. Et c'est pour ça que nous saisissons la presse aussi, pour leur dire, voyez, il faudrait voir pour faire quelque chose. Après, on s'adressera peut-être à la police de commerce, aux politiciens, pour leur dire, visiblement, il faudrait qu'on s'y prenne autrement. Mais je trouverais tellement beau de pouvoir franchir le pas dans la porte d'un magasin, on a préparé des belles affiches qui peuvent vous afficher du genre « Nous, on prend soin de vous. Ici, vous ne trouverez pas de promotion, ni d'alcool, ni de tabac. » Ça peut être sympa.
Est-ce que vous êtes un peu plus sollicité maintenant qu'il y a le confinement ? Est-ce que vous recevez plus d'appels ?
Pas forcément, non. Je pense que il y a des gens qui étaient déjà accompagnés. Alors, si vous voulez, tous les centres de soins, ils font de l'accompagnement à distance, en télétravail. Après, il y a ceux qui sont dans la précarité, mais ceux-là, ce n'est pas eux qui vont prendre le téléphone pour nous téléphoner. Il y a tout un dispositif, dans le dispositif de précarité, nous, on offre la formation aux professionnels de terrain pour aborder les consommations avec leurs usagers, pour qu'ils ne se sentent pas démunis par rapport à ça, qu'ils puissent en parler de manière ouverte et en ayant l'impression d'être constructif, ce qui n'est pas toujours facile. Et puis, autrement, je pense que, en fait, le problème avec l'alcool, c'est que les gens ne consultent que très tard, en général. Si vous voulez, typiquement, quelqu'un qui consulte pour un problème d'alcool, il a plus facilement 45 ans que 25. Et en général, sa vie, son entourage est déjà très marqué par la problématique. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur la sensibilisation du public, des 20% de consommateurs problématiques qui ne sont pas alcooliques, mais qui ont simplement une consommation qui commence à avoir une incidence sur leur vie. Ils ne font pas toujours ce qu'ils avaient prévu. Il y a peut-être des moments où ça se passe moins bien dans leur entourage, etc. C'est là que l'alcool, c'est pas la peine de s'y intéresser, parce que c'est là qu'on a encore les compétences pour changer 2-3 choses.
Et quelles sont les résistances auxquelles vous êtes confrontés? Je pense par exemple au discours que l'on entend, oui, mais c'est un outil de sociabilisation, oui, c'est une tradition, le vin, ça fait partie un peu de nos mœurs. Est-ce que vous êtes également confrontés à ça, ou est-ce que le choc est plus abrupt lorsque l'on parle d'addiction à proprement parler?
Alors, d'addiction, on parle le plus de consommation, de comportement de consommation problématique, vous voyez, on y met toutes les formes, plutôt que d'addiction, parce que dire à quelqu'un qu'il est addict ou le convaincre qu'il est addict, dans l'alcool, c'est dire t'es un alcoolique, etc., ça change pas grand-chose au prix du beurre. C'est-à-dire que ça va pas l'aider beaucoup, lui. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut quand même qu'il se sente assez valorisé pour se dire « je peux, je désire, et n'y a pas de raison pour que je ne fasse pas quelque chose pour améliorer un peu ma consommation, mes habitudes, etc. Et effectivement, l'alcool est effectivement un bien culturel, c'est quelque chose d'agréable. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui ont des spectres un peu dépressifs ou bien peut-être qui ont des fois des troubles d'attention. Il y a des gens qui trouvent un apaisement dans l'alcool. Et ça, il ne faut pas le nier. Peut-être que la première chose qu'on fait toujours, c'est d'aborder, mais c'est quoi votre plaisir? Et puis, en quoi ça vous fait du bien? Et ça, c'est important de le reconnaître. Ça ne sert à rien de se battre contre l'alcool. Nous ne battons pas contre l'alcool. Nous battons pour que les personnes puissent gérer leur alcool. Après, non, on ne cherche pas à éliminer l'alcool. Donc, les réticences qu'on a, c'est souvent les milieux économiques qui disent « Mais voilà, vous voulez tuer le petit commerce, vous voulez tuer les vignerons, etc. » Je veux dire, si les vignerons ont besoin des alcoolos pour pouvoir assurer leur chiffre d'affaires, il faut qu'ils se posent des questions quand même. Mm-hmm. Alors, je pense qu'il n'y a aucun vigneron qui cultive pour que les personnes soient dépendantes à l'alcool, parce que ça, on ne peut le souhaiter à personne. Dans ces lieux-là, ils savent ce que c'est. Non, moi je pense qu'il y a une sorte de conflit entre la prévention et les producteurs qui est entretenu à un niveau national par des gros lobbies. Et peut-être que les producteurs de vin auraient plus intérêt à se lier à nous par rapport à des gros lobbies qui imposent des alcools fort très bon marché avec des stratégies de marketing très agressives pour vendre leur production de qualité à des gens qui peuvent en jouir sans en dépendre.
Donc, selon vous, on peut arriver à un moment donné à avoir une consommation régulée et apaisée de l'alcool?
Alors, oui, bien sûr, on pratique tous. Après, il y a des personnes qui perdent ce qu'on appelle qui perdent le contrôle. C'est là qu'on commence à parler de l'addiction. Ou alors, par le fait qu'on sait tous que dans l'alcool, il y a de l'accoutumance, et que si on en prend souvent, au bout d'un moment, il faut un peu plus pour avoir le même effet. On supporte bien, on se dit c'est bon, c'est pas grave, et c'est un peu un piège. Donc non, il y a des gens qui se font piéger et qui tentent parfois d'avoir une consommation contrôlée, qui n'arrivent pas, et souvent, là, ils choisissent l'abstinence, parce que pour eux, c'est trop difficile. De devoir réfléchir avant chaque moment où je vais penser à un verre. Et puis, il y en a qui n'arrivent pas à contrôler, quoi, parce que le produit a pris trop de place. Et ça, la consommation contrôlée n'est pas du tout en contradiction avec tous les mouvements d'abstinence comme les alcooliques anonymes ou d'autres choses. Je pense que c'est une alternative, mais certaines personnes n'ont plus beaucoup d'alternatives. Ça, c'est une réalité aussi. Et il ne faut pas le... Alors, au début, c'est normal. Quand on est malade, on se dit qu'on va pouvoir redresser la barre. Certains n'y arrivent pas et se rendent à l'évidence qu'il faut qu'ils passent à l'abstinence. C'est très peu de monde au niveau de la population genevoise. Mais c'est très peu de monde, mais ça ne veut rien dire, c'est très peu de monde. Parce que quand ça arrive à un de vos proches, c'est monstrueux. Ça prend une place infernale, quoi.
Oui, bien sûr. Alors, je disais ça... Effectivement, aussi parce que parmi les actions que vous menez également, eh bien, il y a celle de la promotion des offres de soutien à la consommation contrôlée via un site internet qu'on va citer, c'est www.meschoixalcool.ch. Et il y a également, à partir du mois de mai, eh bien, avec Addiction Suisse, le lancement du site www.monado.ch qui va venir implémenter cette la prévention.
Oui. Parce que ça, c'est le message. Ça fait depuis 2012 qu'on a fait des enquêtes auprès des parents, puis auprès des jeunes et leurs parents. En fait, les parents imaginent toujours que quand nos enfants viennent des adolescentes et des adolescents, ils n'écoutent plus, mais en fait, pas vraiment. Ils sont très sensibles au regard des parents. Et les parents auraient l'opportunité de faire bien plus qu'ils ne croient. Et on a monté un site qui est super sympa parce qu'il est traduit, on peut dire traduit, en faible littératie. C'est-à-dire c'est un langage français très simple. Alors, les défenseurs de l'Académie française seront horrifiés, mais ça donne un langage qui met à la même hauteur, en fait, tant les parents que les adolescents, les adolescentes, et quand on dit les adolescents, c'est aussi les jeunes adultes, hein, on est au clair. Et c'est un bel objet, parce que comme ça, ensemble, ils peuvent regarder des choses, ils peuvent discuter ensemble, il faut rétablir le dialogue autour des consommations. Alors, si vous voulez, même des adolescents, ils vont se vanter, enfin, même nous, en tant qu'adultes, si une fois on est adulte, on va se vanter de nos consommations. On va rarement parler de ce qu'on vit dans les consommations. Et ça, au sein de la famille, entre jeunes, entre adultes, on a vraiment du chemin à faire. Parce que si on parlait de ce qu'on vit dans la consommation, on en arriverait à des très très belles et très bonnes pratiques.
Oui. Alors, on va rappeler que la campagne, eh bien, elle a cours depuis quelques jours maintenant seulement, qu'elle contient trois points principaux. C'est celui de renoncer. Alors, on parle bien d'une campagne qui est à destination des commerces, qui est en trois points: de renoncer aux promotions, des actions, des mises en avant du produit dans la vente des produits contenant de l'alcool et du tabac, de promouvoir des alternatives, par exemple, vous l'avez dit, des boissons et des cocktails sans alcool, le vapotage par exemple pour les produits et les produits de substitution à la nicotine pour les fumeurs. Et le troisième point, c'est de diffuser ce message pour lequel, eh bien, vous avez d'ores et déjà préparé des affiches très sympas avec des dessins amusants et puis une manière ludique d'informer les personnes en leur disant que ici, vous ne verrez pas de promotion d'alcool ou de tabac parce que notre mission n'est pas seulement de vous servir, mais nous voulons prendre soin de vous. C'est ça.
Bah, vous êtes le meilleur porte-parole qu'on puisse imaginer.
Mais oui, mais en même temps, vous avez dit que finalement, le retour du côté de ces commerces, eh bien, était plutôt mitigé. Alors, est-ce que vous... Alors, dites-moi.
On verra. Maintenant, on a essayé la grande distribution, mais moi, je prends des très bons espoirs dans la petite distribution et dans tous les commerces de proximité, parce que d'après moi, ce sont des gens qui sont pleins de bon sens. Et ça va le faire.
Ok, alors on verra, effectivement, comme vous l'avez dit, on sait encore un petit peu tôt pour répondre à cette question-là, mais qu'en est-il des médias? Est-ce que là aussi, vous souhaitez que cette campagne eh bien, soit relayée par des médias de masse, des quotidiens, des grands quotidiens, des radios nationales? Est-ce que c'est quelque chose qui a vocation à dépasser le canton de Genève, la Romandie, qui sait?
Alors, pour le moment, nous avons commencé dans nos sphères d'influence, là où on sait qu'on arrive à faire des choses, là où on a du réseau, etc. Maintenant qu'elle est lancée, je vais contacter tous mes collègues romands et on va voir s'ils veulent se lancer dans quelque chose. Et ce n'est pas exclu que c'est une campagne qui prenne de l'ampleur, soit par les citoyens, soit par les commerces parce qu'ils s'engagent, soit parce que les politiques vont y trouver quelque chose de pertinent. Pour une période qui finalement n'est pas une période qui est amenée à durer très très longtemps, donc pour une incidence qui est tout à fait viable aussi. Oui, je me réjouis, en tout cas, oui, que nous sommes à disposition pour tous ceux qui veulent en faire un mouvement plus large.
Et c'est-à-dire que pourquoi pas impliquer également, alors vous l'avez dit par la suite que vous pourriez solliciter par exemple les politiques, mais également pourquoi pas certaines institutions, peut-être que ce soit des bibliothèques, puisqu'il y a des belles affiches, des ludothèques ou d'autres lieux. Est-ce que ça, c'est un questionnement qui vous habite également?
Alors, oui, nous, notre idéal, vous savez, pour faire la prévention alcool, cannabis, nous sommes 2-3 personnes là dans notre structure. Donc, nous ne faisons rien sans les autres. Et oui, nous avons régulièrement des partenariats avec la FAS, avec tout un tas de structures pour en fait qu'ils deviennent des acteurs de prévention, oui. Et pour que chacun puisse devenir des acteurs de prévention, la prévention, ça ne doit plus être un domaine de spécialiste et ça doit être un domaine réaliste aussi, où on peut parler des consommations, où on ne se bat pas contre les gens, mais avec et pour eux. Et j'ai bon espoir, non, je n'ai pas bon espoir, c'est déjà le cas. Et nous avons souvent de très très belles collaborations avec tous les endroits qui ont envie de voir à quoi pourrait ressembler la prévention dans leur cadre de vie, dans leur petite institution. institutions, dans leur société sportive, etc. Et là, nous sommes à leur disposition.
Et est-ce qu'on peut, de votre point de vue, est-ce que vous constatez, et dans quel sens si c'est le cas, une évolution des mœurs et des rapports que l'on a avec, eh bien, bon, le tabac, mais surtout là, en l'occurrence, ce qui nous occupe, c'est avec l'alcool. Est-ce que tout de même, on constate que de plus en plus, parce que vous l'avez dit, il y a également ce message qui est martelé depuis des décennies par, il faut le dire, des lobbies, voilà, des personnes qui s'intéressent à leur chiffre d'affaires avant tout, j'ai l'impression. Est-ce qu'on constate que peut-être y a-t-il une distanciation plus grande, une critique plus facile qui s'opère, ou en tout cas un rapport qui a changé? Et si c'est le cas, dans quel sens?
Alors, au niveau politique, ce qui a changé, c'est qu'on a mis énormément en avant la responsabilité individuelle et on a limité la responsabilité collective. Ça veut dire quoi, en termes? C'est, nous, on va vendre les choses comme on veut, on leur a dit que ce n'est pas sain, mais après, ils prennent leurs responsabilités. C'est un point de vue, mais la réalité, c'est que c'est la collectivité qui fixe la consommation. Si moi, je pars avec des copains qui boivent beaucoup, je vais boire beaucoup. Si je pars avec des copains qui boivent moins, c'est toujours notre milieu social, les normes sociales, les règles qui fixent, en gros, notre niveau de consommation. Alors, comment ça évolue? Je dirais que la norme sociale a un peu éliminé l'alcool et le tabac de tout le milieu du travail. Ce qui fait que globalement, on consomme beaucoup moins quand même. Depuis 15 ans, les consommations sont, tant chez les jeunes que chez les plus âgés, en diminution. Ça, c'est ce qu'on observe. Ce qui est intéressant, c'est d'observer aussi que avec la mise on commence à remettre en cause les grands scénarios, les grands discours qui nous poussent à consommer dans tous les sens. Et dans ces consommations, il y a aussi l'alcool et il y a aussi le fait qu'on commence à se dire, ben voilà, on peut aussi consommer plus sain, faire la fête de manière très festive, mais sans se détruire ou prendre des risques inconsidérés. Et ça commence à venir. Il y a, de par le monde, des mouvements de gens qui font l'expérience de l'abstinence sur une soirée, sur un mois, sur plus longtemps. Ça devient toujours plus à la mode, je dirais. Alors ça change. Par contre, ce qui ne change pas, c'est que dans tous les problèmes de santé publique, enfin, oui, toutes les... tout ce qui est néfaste à la santé publique, ça va du surpoids pondéral à la consommation, et tout un tas d'autres choses. Moins vous avez fréquenté d'école, moins votre niveau d'études est haut, plus vous avez des conditions de travail précaires, plus vous êtes ce qu'on appelle quelqu'un qui est plutôt précarisé, donc qui vit un stress aussi, mais c'est pas là sont beaucoup plus exposées à tous les problèmes de santé publique. Et ça ne s'améliore pas par contre. C'est comme en gros la violence qui diminue partout, mais comme par hasard, la violence conjugale pas. Et il y a des choses qui appartiennent aux conditions de vie sur lesquelles on devrait avoir plus d'impact. Mais autrement, je dirais que globalement, on est... toujours un peu plus responsable, oui.
D'accord, donc on va quand même un petit peu vers le mieux, doucement vers le mieux.
On va doucement vers le mieux. Après, c'est la question de la gestion des risques aussi. Si vous prenez le risque un soir, c'est-à-dire que vous prenez votre voiture en ayant bu, ben c'est, voilà, un soir suffit pour que ce soit dommage. Mais sur la consommation à long terme, je pense que ça va mieux. On a aussi, par contre, aussi des moins bonnes nouvelles. C'est qu'on s'est rendu compte que l'alcool était un peu plus nocif qu'on imaginait. Par exemple, ça prédispose à des cancers, et notamment au cancer du sein aussi. Déjà, les femmes sont pas gâtées avec l'alcool pour des questions physiologiques. Hein. Ce n'est pas un propos sexiste, mais pour des questions physiologiques, en fait, la dose d'alcool... a deux fois plus d'impact sur leur santé que sur un homme. C'est des questions de masse adipeuse dans le corps. Et puis aussi en vieillissant, à mon âge, voilà, j'ai 57 ans, donc effectivement, l'alcool taxe plus pour moi parce que j'ai moins d'eau dans le corps. Et donc, voilà. Donc, qu'est-ce qui nous arrive ? Eh bien, je dirais que dans les consommations, comme dans la société en général, on doit toujours plus gérer de choses parce qu'on a toujours plus d'occasions de consommer. Donc oui, on est dans une société où on doit gérer. Ce qui est un peu dommage pour le côté relâche et vivre la vie qu'on avait peut-être dans ma jeunesse. Voilà, ça change.
D'accord. Alors, Christian Willem, on arrive doucement au terme de cet entretien. Pour en terminer, pensez-vous que, voilà, à l'aune du dépassement de cette crise, parce qu'il va bien falloir qu'on la dépasse tout de même, ouais, eh bien, vous arriveriez également à faire de ces lobbies des alliés d'une certaine manière, ou en bonne intelligence, eh bien, arriver à, voilà, à parler d'alcool, de prévention et de gros sous, d'arriver à parler en bonne intelligence de tout ça pour pouvoir finalement travailler toutes et tous ensemble. Ou est-ce que ça, selon vous, ça reste quand même quelque chose d'un petit peu problématique ?
Alors, c'est pour ça que nous, on cherche à ce que les gens se positionnent et s'inscrivent. Voilà, on dit commerce, inscrivez-vous dans cette idée. Voilà, ceux qui se sont inscrits, je pense qu'ils vont garder des choses. Après, ceux qui restent dans leur vision purement commerciale, dépourvue d'éthique, parce que faire de l'argent sur une période comme celle-ci, c'est, éthiquement, c'est un peu... C'est quand même discutable.
Carrément.
Oui, parce qu'en plus, ils n'ont pas de concurrence, etc. Je veux dire, non, c'est un peu facile, quoi. Les autres, non, on va pas changer le monde, mais on va offrir peut-être des alternatives et d'autres modèles. Moi, oui, alors d'autres modèles, on est vraiment dans une période où on est en train de créer, tout le monde crée d'autres modèles. Ça pourrait bien en faire partie. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite.
Et puis, pour en terminer, vos prochains défis en termes de fédération, en termes d'association de défense, finalement, d'association de santé publique également. Alors, lesquels seraient-ils ? Est-ce que ce que disait Caro tout à l'heure, ça, c'est par exemple un des objectifs qui pourrait être à vos portes, celui justement d'intervenir sur l'espace public et sur la place qui est faite à la publicité concernant l'alcool ?
Oui. Alors, ça pourrait en être un. Il y a du reste une loi sur laquelle on était consulté, qui est en train de passer, mais il y a un référendum qui vient d'être déposé, mais c'est une loi qui risque de passer. Après, il y a les achats tests aussi. Ça paraît un peu méchant, mais les achats tests qui ont été faits dans le canton de Genève montrent que les gens qui vendent de l'alcool à des personnes qui ne devraient pas en avoir, c'est-à-dire des jeunes ou sont de l'ordre plutôt des 60%, alors que c'est 30% en Suisse, quoi. Franchement, on a vraiment du travail. Et nous, on a déjà des superbes partenariats avec beaucoup d'acteurs culturels. Il y a beaucoup de fêtes qui font des concepts de prévention. On a une très belle loi à Genève qui oblige, aussi incite à créer des concepts de prévention dans toutes les grandes manifestations culturelles et sportives. Et beaucoup s'adressent à nous sans y être obligés, parce que Carrefour Addiction, la FECPA, le CIPRET sont des partenaires de la culture et du sport depuis bien des années, et on va continuer dans cette voie. Mais maintenant, je pense que les commerces, ils ont leur part de travail à faire. C'est le moment qu'ils se mobilisent un peu.
Absolument, en tout cas.
On va y travailler.
Exactement, c'est ça. Donc on peut dire que les débits d'alcool, eh bien, pourraient être également là le lieu de prochains combats.
Mais de prochaines mobilisations ensemble, on ne va pas se battre contre eux, mais on va se battre avec eux pour que ça vienne bien.
C'est à ça que je pensais, absolument.
Tout à fait.
C'est-à-dire qu'on peut d'ores et déjà dire que voilà, si des personnes souhaitent vous solliciter pour avoir une expertise, pour comprendre un peu mieux cette problématique, et pour faire, hein, tout simplement, pour proposer de la prévention dans un lieu ou lors d'un festival, eh bien, il est possible de venir vers vous et de vous solliciter.
Ah oui, nous sommes là pour ça, absolument.
Et alors là,
personnellement, je forme les jeunes qui font de la prévention par les pairs dans les manifestations et tout. On a une grosse expérience et c'est vraiment un domaine où on connaît bien notre job.
Et donc là, via le site internet www.carrefouraddiction.ch, eh bien, on peut vous contacter.
Oui, très volontiers.
Super.
Merci beaucoup. En général, c'est très chouette.
Absolument. En tout cas, déjà là, le travail qu'on voit avec ces affiches qui sont vraiment pédagogiques, ludiques et drôles, ça donne envie de les lire, quoi qu'il en soit. Et on voit bien que c'est pensé pour que ce soit pas du tout culpabilisant, c'est important de le dire, hein, mais pour que ce soit pour faire de la personne en face un allié et non pas, comme vous l'avez dit, un adversaire, quoi. L'idée, c'est de bosser ensemble.
Absolument. Mm-hmm. Voilà, alors, c'est l'idée, tout acteur.
Absolument, ouais. Alors, est-ce que on s'arrête là? Est-ce que pour aujourd'hui, on a été relativement exhaustif, sachant qu'on ce serait bien qu'on fasse un point de la situation dans quelques temps pour voir si effectivement la campagne a pris, hein, si des médias l'ont relayé, si des lieux vous ont sollicité et vous ont dit oui, nous on a envie, on veut être on veut être des adjuvants de cette campagne. On pourrait faire ça un petit peu plus loin.
Oui, alors on se réjouit. Oui, tout à fait. Allons-y.
Très bien. Alors, merci beaucoup. Christian Vilaine, vous êtes donc le directeur de la FECPA. La FECPA, c'est la Fédération genevoise pour la prévention alcool et cannabis. Le site internet, on l'a dit, c'est www.carrefouraddiction.ch. La campagne, c'est donc cette campagne à destination des commerces, de la grande distribution et des commerces de proximité. Pour leur dire qu'en quelques points simples, eh bien, il est possible d'infléchir la problématique de l'alcool qui est, on peut le dire, exacerbée au moment de cette crise du Covid-19, puisque toutes et tous confinés à la maison, eh bien, de temps en temps, les heures sont plus longues qu'on ne le pense. Merci beaucoup, alors, et à la prochaine, et bonne continuation pour la suite des opérations.
Un grand merci, et une belle journée, et protégez-vous bien.